Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de l'Éducation nationale. Appelez-nous, intervenez dans une dizaine de minutes, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro ce matin d'Inter. Les élèves qui sont actuellement en seconde seront les premiers à connaître la réforme du lycée, puis en 2021, le nouveau bac. Dans les toutes prochaines semaines, ils vont devoir tailler leur route dans les nouvelles options qui leur sont proposées. Alors, moi j'ai la réponse pour ce qui me concerne, mais est-on assez mûr à 15 ans pour faire le choix de ses spécialités, Jean-Michel Blanquer, savoir ce qu'on veut faire tout simplement dans la vie? Donc la réponse, c'est que moi, personnellement, à cet âge-là, j'en avais pas la moindre idée. Mais est-ce que vous comprenez l'inquiétude que suscitent ces choix aujourd'hui?
Moi non plus, je ne savais pas à 15 ans, et l'immense majorité des jeunes ne savent pas à 15 ans ce qu'ils veulent faire après le baccalauréat et quel métier ils veulent faire. Et c'est tout à fait normal. Et la réforme est, de ce point de vue-là, une très bonne chose, puisque, contrairement à ce qu'on dit souvent, elle ne conduit pas à une préorientation, c'est tout le contraire. C'est la situation qu'on avait jusqu'à aujourd'hui qui conduit à se mettre dans un couloir. Si vous ne prenez pas S, vous vous fermez déjà des portes à la fin de la seconde. Et en plus, vous le décidez, ça se décide un petit peu comme ça, parfois au hasard, et parfois, alors même que vous n'avez pas de vocation scientifique, vous le faites par conformisme. Avec le nouveau système, au contraire, vous avez...
Le jeu est plus ouvert.
Le jeu est beaucoup plus ouvert, et vous dites aux élèves de seconde de réfléchir de janvier à juin aux disciplines qu'ils aiment. J'insiste, ce qu'ils ont envie de faire, pas du conformisme, pas de l'artificialité, quelque chose qui leur plaît. Et comme ça leur plaît, ils l'approfondiront davantage. Ils auront des possibilités de changer entre la première et la terminale.
C'est réversible.
Donc, bien sûr que c'est réversible. Et heureusement que cela permet donc d'avoir des réflexions sur le futur. Ça, c'est sain. Ça ne vous dit pas quel est le métier que vous voulez faire. Ça vous dit, tiens, commencez à réfléchir à ce que vous aimez. Et cette chose que vous aimez et que vous allez choisir pour la classe de première, elle commence à vous donner une petite indication de choix que vous ferez ultérieurement. Il y a un site qui s'appelle horizon2021.fr que chacun peut regarder, qui est très utile de ce point de vue-là parce qu'il permet de montrer ce spectre de choix qui s'offre.
Vous comprenez tout de même la petite inquiétude, voire la grosse parfois, chez les élèves et les parents qui se disent « on est face à un maquis là ».
Quand il y a changement, il y a toujours inquiétude, et c'est un très important changement. Ce changement, il a été conçu avec les lycéens, on a consulté 40 000 lycéens pour faire cette réforme, et de nombreuses organisations, acteurs, etc. Et je le dis bien volontiers, c'est un changement considérable. Mais ce changement, il a été fait pour les lycéens, pour qu'en préparant le baccalauréat, ils préparent des compétences qui vont leur être utiles après le baccalauréat, pour les faire réussir. Et puis qu'ils puissent approfondir davantage. S'ils choisissent leur enseignement de spécialité, ça leur permet tout simplement d'aller plus loin. C'est pour ça que les programmes sont un peu plus exigeants, d'ailleurs. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a quand même un bloc commun d'heures qui reste la majorité des heures. Ne négligeons pas.
Alors, quels choix auront-ils vraiment? C'est la question. Parce qu'il faut choisir 3 spécialités, en plus du tronc commun. Ces spécialités, au total, il y en a 12. Combien en moyenne les lycées pourront en proposer?
Alors, plus de 90% des lycées en proposent au moins 7. Et puis ensuite, ça varie d'un endroit à l'autre avec 1, 2 ou 3 en plus par rapport à ces 7. Mais la base, c'est 7. Rappelons qu'auparavant, c'était un peu plus de 80% des lycées, donc moins, qui offraient les 3 voies S, ES et L1. Donc personne ne s'est mouvé de ça. Maintenant, donc il y a une offre beaucoup plus riche. Et rappelons quand même qu'un lycéen de seconde, de l'année dernière, il avait le choix entre, de la voie générale, il avait le choix entre 3 séries. Désormais, très souvent, vous allez avoir une vingtaine, voire une trentaine de combinaisons possibles dans un établissement.
Mais si je suis en seconde, imaginons que je veuille devenir ingénieur et la spécialité sciences de l'ingénieur, elle n'existe pas dans mon lycée. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce qui est un progrès considérable, c'est que dans l'hypothèse que vous venez de dire, auparavant, vous faisiez S et c'était assez standard. Désormais, vous avez un choix parce que, par exemple, vous avez sciences informatiques et numériques, vous avez en effet sciences de l'ingénieur qui s'ajoute à maths, qui s'ajoute à SVT, qui s'ajoute à physique et chimie. Donc, ça veut dire que nos ingénieurs du futur vont avoir des parcours un petit peu plus variés.
Oui, mais alors...
c'est ça qui est bien. Et s'il y a sciences de l'ingénieur dans un lycée à quelques centaines de mètres ou même à 1 ou 2 kilomètres dans la ville, eh bien, c'est possible d'aller éventuellement le suivre à côté.
S'il reste des places, si elles ne sont pas toutes prises.
S'il reste des places, mais attendez, il y a toujours des problèmes de ce genre, il y en a toujours eu, je pense qu'il y en aura moins maintenant qu'avant, mais on peut toujours souligner des imperfections, il peut y en avoir forcément. Mais ce qui est incontestable, c'est que l'offre est beaucoup, beaucoup plus riche cette année pour un élève de seconde que ça ne l'était auparavant. Je vais vous dire une chose, je pense qu'un élève, si par hasard, le système lycéen actuel, celui que nous quittions, était celui que nous sommes en train d'envisager, et qu'inversement, nous étions en train de proposer de faire ce qui a existé persisté jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y aurait des protestations majeures parce qu'on dirait, mais vous nous supprimez des libertés. Là, nous venons de créer des libertés considérables. On multiplie parfois par 10 le spectre des possibilités. C'est donc une opportunité formidable. Qu'il y ait de l'inquiétude et du questionnement, c'est tout à fait normal. Simplement, j'observe que certains aiment bien attiser les flammes de l'inquiétude. Mon rôle, c'est
non, non, là,
contraire.
On essaye de la dissiper en vous posant des questions.
C'est pas vous à qui je pense. Mais c'est simplement notre rôle. Quand je dis notre, c'est pas seulement le mien, celui de l'ensemble des chefs d'établissement, des professionnels de l'éducation nationale.
Deux questions.
C'est d'expliquer.
Deux questions rapides encore sur le lycée. Considérant les choix, notamment l'engouement qui persiste pour les mathématiques, pardon, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recréer la filière?
Alors, ce risque peut exister établissement par établissement. On peut imaginer un établissement, disons, qui par souci de sécurité puisse un petit peu, disons, pas imposer, mais en tout cas conseiller très fortement de reconstituer S. Ce serait une erreur. Pour les élèves qui ne se destinent pas à une carrière scientifique, un des grands intérêts de ce qui se passe, c'est que justement, il n'y a plus de hiérarchie. Autrement dit, imaginons que vous vouliez faire Hippocagne ou des lettres à l'université, ou un institut d'études politiques, c'est un choix pas très bon que d'aller faire maths, physique, SVT.
Mais la filière S, ça vous inquiète, par exemple, se recrée ?
Non, c'est pas que ça m'inquiète, c'est que mon conseil, parce que là c'est de l'ordre du conseil, le conseil aux familles, aux élèves, c'est faites ce qui vous plaît, faites les matières que vous avez envie d'approfondir. Ne faites pas un choix conformiste, ne faites pas un choix artificiel, contrairement à ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Cela signifie que les jeunes feront vraisemblablement des études ensuite beaucoup plus cohérentes avec ce qu'ils auront fait au lycée.
Et est-ce qu'il y aura des moyens budgétaires supplémentaires pour répondre aux demandes des élèves si telle ou telle filière est particulièrement demandée? Est-ce que vous allez compenser, mettre des moyens en face?
C'est déjà ce que nous avons fait. Si vous prenez le cas de sciences informatiques et numériques, qui est une innovation fantastique, c'est-à-dire que nous créons une discipline nouvelle. J'ai d'ailleurs créé le CAPES informatique pour l'année prochaine. Cette discipline nouvelle, elle offre des opportunités exceptionnelles. Dans un premier temps, nous pensions l'implanter dans un tiers des établissements. On est en train de réussir à l'implanter dans plus de la moitié des lycées. Donc on a fait des efforts, que j'ai d'ailleurs traduit juste avant les vacances de Noël, pour bien indiquer à tous les lycéens de France qu'en fait ils avaient de grands choix dans leur lycée.
Et cette logique-là, donc, de déployer des moyens, d'en donner d'autres, des moyens supplémentaires en face de filières qui sont peut-être plus classiques et qui ne sont pas inventées, ça, vous y allez aussi ou pas ?
Ben, de toutes les façons, le sujet aujourd'hui pour le lycée n'est pas tant les moyens. C'est à l'école primaire que je mets les grands moyens supplémentaires, vous le savez, j'assume ce choix. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les comparaisons internationales, on voit que l'école primaire française est à 15% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Le lycée est assez nettement au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a trop, mais ça veut dire que le sujet n'est pas tellement les moyens supplémentaires que notre manière intelligente de les répartir. Par exemple, avoir des classes moins surchargées parce que mieux réparties entre elles. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez par exemple des classes de S à 35 et des classes de L à 15. Ça n'est pas raisonnable. C'est le genre de choses qui vont changer.
Mais vous allez continuer à supprimer des postes dans les collèges et les lycées ?
Alors en 2019, nous supprimons certes des postes. Je rappelle que nous en créons dans le premier degré, nous en supprimons dans le second degré, ce qui est cohérent avec ce que j'ai dit avant. Mais nous créons aussi des heures supplémentaires. Donc en termes de taux d'encadrement, c'est neutre pour les élèves et c'est aussi une opportunité de pouvoir d'achat pour les professeurs.
Autre inquiétude, Jean-Michel Blanquer, c'est le projet de loi pour l'école de la confiance qui arrivera au Sénat début mai. Ce projet de loi, il abaisse l'âge de l'instruction à 3 ans, ça c'est une de vos mesures phares. Il instaure aussi le regroupement des classes d'un collège et d'une ou plusieurs écoles au sein d'un nouveau type d'établissement que vous appelez des savoirs fondamentaux. Alors expliquez-nous à quoi ça va servir, pourquoi vous les instituez ?
Alors le verbe instaurer est trop fort parce que ça a l'air de dire que nous allons faire ce que vous venez de dire partout. Bien sûr que non. C'est juste un outil dans une boîte à outils. C'est une possibilité. Ça restera sûrement très minoritaire. Et je le dis tout de suite, cette formule sera faite là où il y aura du consensus local. Donc là où les professeurs, la communauté éducative et les élus locaux auront envie de ça.
Ça, c'est important parce que c'est la contestation qui fait qu'aujourd'hui vous dites je suis prêt. Au départ, c'était beaucoup plus volontaire
de votre part. Non. Si vous écoutez les débats parlementaires à l'Assemblée nationale, j'ai toujours dit ce que je viens de vous dire à l'instant. Simplement, c'est toujours pareil. Il y a des voix qui se sont un petit peu développées pour essayer de faire croire qu'on allait faire ça partout de manière imposée. Certainement pas. Je suis le premier à ne pas désirer ça. En revanche, ce que je vois, c'est que cette formule, qui consiste donc à rapprocher l'école et le collège, selon des modalités qui peuvent varier d'ailleurs, mais dont le but est d'avoir un continuum pédagogique et éviter la césure CM2-6e. Le but est parfois de créer des effets de masse critique aussi en milieu rural pour sauver une école ou sauver un collège. Eh bien, ce but-là, on l'a décrit, les gens qui ont envie de critiquer l'ont décrit complètement autrement, mais surtout, ce qui est évident, et je le dis avec beaucoup de force, c'est que ça n'est pas fait pour être imposé, c'est fait pour être un outil, parce que parfois, on a besoin de faire ce genre de choses dans certains endroits.
Qui aura la possibilité de dire non et
Tout le monde, il faut que ce soit consensuel. Mmh. Il faut qu'il y ait un accord entre la communauté éducative et les élus locaux. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais prêt au Sénat dans la lecture qui sera faite, dans l'examen qui en sera fait très bientôt, à y ajouter les éléments qui rassureront, puisque le but n'est évidemment pas d'affaiblir l'école primaire d'une quelconque manière. Je n'arrête pas de dire que ma priorité, c'est l'école primaire.
On a dit que ça allait supprimer les postes de directeurs d'école primaire.
Non, certainement pas, c'est tout le contraire. Mon but est de renforcer les directeurs d'école. Simplement, il y a plusieurs façons de le faire. Celle-ci en est une, mais il y a évidemment d'autres. Et si un directeur d'école si une équipe, plus le directeur, n'ont pas envie d'une chose comme ça, ils ne le feront pas. C'est simplement un outil. Ça peut arriver. Ce que nous décrivons existe déjà, en réalité. Il y a certaines expérimentations, mais qui n'ont pas de cadre juridique très précis, qui existent. J'ai un exemple en Ariège, par exemple.
Mais vous en souhaitez
combien ?
Ça a
permis de sauver une école et un collège.
Vous en souhaitez combien, désormais ?
C'est pas un souhait quantitatif. Et honnêtement, c'est pas la disposition la plus importante de cette loi. Semaine après semaine, on met un coup de projecteur sur l'un des aspects de la loi, et c'est parfois décrit de manière un peu caricaturale. La semaine dernière, il y a des gens qui ont prétendu qu'on voulait supprimer les écoles maternelles.
Bobard, avez-vous dit.
J'ai dit que c'était un bobard, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, je tiens à être un peu solennel sur ce point, si vous voulez, c'est qu'en tant que responsable public, vous passez maintenant une part non négligeable de votre temps à devoir rectifier des bobards. Si vous voulez, la semaine dernière, il y a quand même, j'ai vu un député, un élu de la République, qui, sachant pertinemment que cette histoire d'école maternelle qu'on veut fermer est totalement fausse, l'a quand même dit dans des réunions pour exciter les gens. Vous avez des gens qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école maternelle pour faire école morte, pour protester contre une mesure qui n'existe pas. Et en ce moment, on est en train d'énerver un peu tout le monde en décrivant cette histoire d'établissement public des savoirs fondamentaux d'une manière qui n'est absolument pas réelle. Comme il faut être très clair, j'explicite ce que... Mais tout le monde peut regarder les débats parlementaires que nous avons déjà eu, où j'avais déjà dit ça, mais je le dis maintenant de manière peut-être plus solennelle, il faut un consensus local, et donc quand il n'y en a pas, on ne fera pas les établissements des savoirs fondamentaux, ce ne sera certainement pas la majorité des cas.
Alexandra le disait à l'instant, la loi sur l'école de la confiance arrive au Sénat début mai, est-ce qu'elle s'appliquera dès la rentrée prochaine, considérant les délais qui sont très courts ?
La loi ?
Oui.
L'instruction obligatoire ?
Tout, Sénat s'en saisit trois tiers du 11.
Ça dépend de quel sujet de la loi nous parlons. C'est-à-dire l'instruction obligatoire à 3 ans, oui, c'est dès la rentrée prochaine. Et là aussi, rappelons que c'est un point très important. Ça veut dire 25 000 élèves de plus en maternelle qui aujourd'hui n'y vont pas. Donc toute notre philosophie consistant à aller à la racine des difficultés scolaires s'y trouve. On va valoriser l'école maternelle en France. Le taux d'encadrement à l'école primaire va s'améliorer, rentrée après rentrée, selon ce que nous avons programmé. Département par département, nous avons une politique de défense de l'école rurale. Tout ceci est porté aussi derrière l'instruction obligatoire à 3 ans. C'est toutes ces choses qui sont là. Ensuite, vous avez d'autres mesures importantes, notamment la formation des maîtres, qui va évoluer, mais évidemment par étapes. La première étape, là, c'est les directions des instituts de formation des maîtres.
Et donc 100%, c'est pour quand ? 100% d'application de tout ce qu'il y a dans cette loi ?
Alors, vous avez quand même une bonne part qui s'applique à la rentrée prochaine, mais il y a des choses qui prennent du temps. Par exemple, la formation des maîtres, c'est sur 3 ans que l'ensemble de la réforme s'accomplit. Parce qu'il y a encore des discussions d'ailleurs sur les modalités. Vous avez, si vous prenez l'agence d'évaluation, c'est un point très important, mais elle sera réellement mûre dans l'année 2020. Vous avez la création, par exemple, des établissements publics internationaux. Ben, ça, c'est des projets dont certains peuvent commencer à être mûrs, mais c'est plutôt à la rentrée 2020.
Allez, on file au standard. Il y a énormément de questions, que ce soit via l'application, les réseaux sociaux ou donc le téléphone. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à l'équipe de... Merci, merci. Bonjour à l'équipe de France Inter. Bonjour, monsieur
Bonjour.
Le ministre.
Bonjour, monsieur.
Sans vouloir souffler sur aucune braise, il y a une énorme inquiétude chez les élèves et chez les professeurs parce que demain, les mathématiques de non-spécialistes vont disparaître dès la fin de la seconde. Pourquoi avoir fait ce choix très élitiste du tout ou rien concernant les mathématiques, monsieur le ministre ? À savoir soit un enseignement de spécialité très exigeant, plus exigeant que les mathématiques de première S aujourd'hui, soit une part dérisoire de mathématiques dans l'enseignement scientifique du tronc commun, qui est essentiellement consacré à la SVT et à la physique.
Merci Bernard pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond rapidement qu'on puisse faire tourner la parole.
D'accord, merci en tout cas pour cette question qui permet de clarifier. Je crois que c'est justement pas le tout ou rien, c'est l'inverse. C'est, aujourd'hui, on a le tout ou rien. Vous pouvez être en L et ne pas faire de maths. Et vous avez des maths très standardisées qui sont les mêmes pour tous en S. Demain, vous avez des parcours personnalisés. Les mathématiques sont la seule discipline qu'on trouve aux trois étages de la réforme. Vous avez un petit peu de mathématiques, légèrement, je vous l'accorde, hein, dans le bloc commun, au travers de l'enseignement scientifique. Ensuite, vous avez l'enseignement de spécialité. Vous avez dit à juste titre qu'il était exigeant. Et puis ensuite, vous avez en troisième lieu, dans les options, maths complémentaires, 3 heures, pour ceux qui ne font pas de maths, justement. Et puis maths de spécialité, 3 heures, pour ceux qui veulent approfondir encore plus. En clair, ça veut dire qu'un élève, il a soit quelques heures de maths au travers d'enseignement scientifique, soit il a, sur toute l'année, soit il a 3 heures de maths en maths complémentaires en plus de ses disciplines s'il n'a pas pris maths, soit il a 6 heures en enseignement spécialité, soit il a 9 s'il a pris maths expert. Donc c'est pas du tout le tout ou rien, c'est un peu 3, 6 ou 9.
Yannick est en ligne depuis Toulouse, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tout le monde, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour madame.
Étant donné l'urgence climatique, n'est-il pas envisageable de créer une nouvelle discipline, une nouvelle matière dès l'école maternelle, voire élémentaire, pour la protection de l'environnement et la prise de conscience de ce que c'est l'écologie?
Merci Yannick. Jean-Michel Blanquer vous répond rapidement là encore.
C'est très important effectivement de prendre cela en compte. Et d'ailleurs, dans une semaine, vendredi en 8, j'aurai une réunion avec le Conseil national de la vie lycéenne pour étudier ces questions-là et notamment tout ce que nous pouvons faire pour l'environnement, aussi bien au travers de la scolarité qu'au travers de l'engagement quotidien des élèves dans ces enjeux-là. Donc ça ne nécessite pas de créer une matière nouvelle, mais évidemment dans les matières comme géographie, SVT, même enseignement civique et moral, de prendre toute la mesure de l'enjeu et peut-être d'accentuer encore la présence de ce sujet, mais sous un angle un petit peu approfondi, mais parfois même technique et scientifique, et ce sera fait. Oui.
Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce que vous pouvez faire ce matin pour l'environnement dans lequel évoluent vos élèves? On a une étude de Greenpeace qui nous dit que 85% des écoles franciliennes sont polluées, que l'air y est irrespirable et que des milliers d'enfants marseillais sont en danger. Est-ce que c'est vrai?
Il y a clairement de toute façon un enjeu de société autour de nos conditions de vie à tous hein, et de la qualité de vie.
Et l'école, là, vous pouvez faire l'école quelque chose,
bien sûr, et bien sûr qu'on doit faire quelque chose. Et donc,
il faut fermer les routes.
Comme chacun sait, je pense que alors là, c'est typiquement le genre de choses d'ailleurs dont on va parler avec les lycéens et sur lesquels on doit avancer ces prochains temps à la faveur du grand débat. C'est une compétence des collectivités locales, la question du bâti scolaire, mais je ne m'en déresponsabilise pas du tout. On crée une cellule bâti scolaire au ministère de l'Éducation nationale en lien avec la Caisse des dépôts et consignations pour aider les collectivités dans les mesures qu'elles doivent prendre sur toute une série de sujets environnementaux qui sont de tous ordres, d'ailleurs les polluants, l'air que l'on respire.
Le problème, apparemment, ce sont les routes, là. Hein. Même, c'est un gros problème.
C'est le sujet
problème.
Des routes. Mais par exemple, routes. À Marseille, c'est pas seulement le sujet des routes, c'est le sujet de la vétusté des bâtiments. Donc, nous avons désormais des éléments à Marseille pour agir. Le recteur de Marseille travaille avec la mairie de Marseille. Mais j'ai l'intention d'être très présent sur ce dossier pour arriver à rattraper ce qui doit l'être.
Nous recevions mardi les deux anciens conseillers du président de la République, Ismaël Emelien et David Amiel, pour leur livre qu'ils viennent de publier sur le progressisme. Sur l'école, David Amiel a dit au micro d'Inter, on a le système le plus inégalitaire de tous les pays développés. La gauche a fermé les yeux sur le déclin de la plupart des écoles françaises et il a conclu que ces 30-40 dernières années, l'école française avait été un désastre. Désastre, je lui ai fait répéter le mot, il l'a maintenu. Ce terme vous choque ou est-ce que vous pourriez l'employer vous aussi ?
Non, je ne l'emploierai certainement pas, de même que je n'utilise jamais le mot du pachyderme préhistorique qu'on utilise pour la maison que j'ai la fierté de diriger. Je pense que...
Désastre.
Non, justement, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça je suis le premier à le dire. Gardons-nous des mots excessifs, désastre n'est pas le mot pertinent. Par ailleurs, le mot pertinent n'est pas non plus de dire que tout va bien. Simplement, il y a des choses à améliorer, et surtout là où il a raison, c'est évidemment de pointer le fait qu'il y a une dérive inégalitaire de notre système, une sorte de dérive lente et naturelle, en quelque sorte. Et il faut évidemment maintenant être très volontariste pour aller à l'encontre de cela. Souvent, c'est lié à des enjeux de société, d'ailleurs. Là, quand on fait le dédoublement des classes de CP et de CE1 par deux, on va à la racine des inégalités. Parce qu'on sait très bien que c'est dans cette période de la vie que se jouent énormément de choses. Lorsqu'on met l'instruction obligatoire à 3 ans, j'ai parlé tout à l'heure des 25 000 élèves nouveaux qui vont en bénéficier, c'est cela que l'on fait. Donc cette concentration vers l'école primaire, c'est évidemment l'un des enjeux. Mais l'opération devoir fait au collège, par exemple, elle touche maintenant des dizaines de milliers d'élèves. Elle est est en train de changer la donne pour les élèves concernés.
Vous lui laissez le mot.
Non, non, je lui laisse pas le mot, justement. Je dis que
vous le daignez, pardon.
Même si je vois bien ce qu'il pointe, et là, il a raison.
Une représentation, autre question, une représentation d'une pièce d'Eschyle a été empêchée à l'université de la Sorbonne par des militants qui voyaient dans le maquillage des personnages ou les masques qu'ils portent l'équivalent de la pratique raciste américaine du blackface, qui consiste à se peindre le visage en noir quand on est blanc. Comprenez-vous l'émoi de ces militants? Ou est-ce qu'on est en train de voir arriver en France un ordre moral imposé par le politiquement correct? Alors là, pour le coup, au sens strict tel qu'on l'emploie aux États-Unis.
Écoutez, je ne connais pas le détail de cette affaire, mais...
Le Figaro fait une pleine page
oui,
ce matin.
J'ai pas eu le temps de lire toute la presse ce matin, mais je considère qu'il y a un risque de ce côté-là. Peut-être y avait-il un problème dans cette pièce, je ne sais pas. Mais ce que je vois pointer, c'est au travers de ce fait divers, comme au travers d'autres éléments, comme par exemple Sud 93 en Seine-Saint-Denis, qui récidive avec ses réunions racisées, etc. Je vois poindre en effet qu'au nom de l'antiracisme, une certaine violence et une forme de racisme, en réalité, est en train de s'installer. Elle, je la trouve inquiétante. Il y a aujourd'hui une extrême gauche française qui joue avec le feu sur ces questions-là, qui cherche sans arrêt à créer des phénomènes d'agressivité. Quand je vois qu'un syndicat se permet d'organiser des réunions intitulées racisées, chose qu'ils avaient déjà tentée l'année dernière, qui s'abrite derrière un droit syndical qui en effet est très protecteur pour faire des choses qui en réalité polarisent la société, eh bien oui, je pense qu'il y a un élément d'inquiétude. Et de façon générale, interrompre une pièce de théâtre m'a jamais paru être une très bonne chose. Je voudrais de ce point de vue-là rendre hommage quand même au travail des professeurs au quotidien, parce que c'est eux qui sont confrontés à cette angoisse sociale et à ces difficultés de savoir vivre ensemble qui peuvent exister aujourd'hui dans nos sociétés. Ils font un travail formidable et je regrette qu'il y ait parfois des forces dans la société qui viennent un petit peu abîmer ce travail.
La politique, Jean-Michel Blanquer, 3 ministres quittent le gouvernement. Quel calendrier, quelle priorité pour le remaniement?
Alors ça, c'est évidemment une question qui relève du président de la République et du Premier ministre. Comme vous le savez, le président aime bien ne pas être dans la précipitation sur ce genre de sujet. Mieux vaut attendre un peu et avoir bien stabilisé les choses que d'agir dans la précipitation. Donc là, il est maître du calendrier, mais j'ai aucune inquiétude.
Le Figaro dit ce matin que Mounir Mahjoubi a été limogé du gouvernement. Yael Gauz sur France Inter décrivait le même processus d'éjection du secrétaire d'État chargé du numérique. Posait un problème?
Non, je ne crois pas.
Pour être sorti de cette manière-là?
Non, ce qui s'est passé hier, de façon logique, de façon égale pour les trois, c'est que ils sont tous les trois désormais en campagne électorale, et il y a une doctrine très claire qui a été dite par le président et le Premier ministre, qui est qu'on n'exerce pas de fonction gouvernementale en même temps que l'on est dans l'arène électorale comme candidat, parce qu'on doit tous être pleinement à nos fonctions. Donc c'est cette logique-là qui s'est appliquée.
Deux dernières questions sur le climat social à l'éducation nationale. D'abord, avez-vous été surpris par la mobilisation des enseignants le 19 mars dernier, avec des mouvements de grève qui ont été nettement plus suivis que les précédents?
Écoutez, cette mobilisation, elle a été en fait... pas si forte que ça dans le second degré, elle l'a été dans le premier degré, mais sur la base d'informations qui n'étaient pas justes. C'est-à-dire qu'on a inquiété sur les établissements publics des savoirs fondamentaux, en laissant croire qu'on allait porter atteinte aux directeurs d'école ou aux écoles primaires. C'est tout le contraire. Mon message vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'école primaire, c'est vous êtes soutenus. D'abord, je leur exprime une gratitude à l'école primaire comme dans l'enseignement secondaire, parce que toutes ces évolutions qui font sens, qui ont une explication, qui sont pas là, c'est pas des réformes pour faire des réformes, c'est justement pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre ces problèmes que vous mentionnez.
Ma question est sur le climat social, parce qu'on vous accuse il vous accuse d'autoritarisme, d'être caporalisé, qu'il y ait une absence de dialogue. Est-ce que ça, vous le reconnaissez, vous en prenez votre part, ou
non,
alors le climat social est parfait, tout va bien?
Non, je suis complètement dans le dialogue, les syndicats sont reçus en permanence. Ah, non, mais après, si vous voulez, vous avez des gens dans le monde syndical qui, depuis le premier jour où je suis arrivé, disent ce genre de choses. Ils le martèlent toute la journée, il y a les réseaux sociaux, à la fin, ces choses finissent par percoler. Moi, j'ai besoin de dire aux professeurs directement, d'abord que je les remercie, c'est un travail extraordinaire qui est fait au quotidien dans le système. Deuxièmement, que ces réformes font sens les unes par rapport aux autres, et qu'elles sont là pour les soutenir. Je suis le soutien des professeurs. Qu'il puisse y avoir des malentendus, c'est possible. Qu'il y ait des choses à infléchir, à faire évoluer, je suis le premier à penser que c'est toujours nécessaire. C'est pour ça que je suis à l'écoute. Je l'ai été pour l'examen devant l'Assemblée nationale, je le serai pour l'examen devant le Sénat. Donc je suis complètement à l'écoute, avec des lignes qui sont claires, notamment l'élévation du niveau général de notre pays et la justice sociale.
Merci Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, qui était au micro de France Inter ce matin, 8h.